Salut la compagnie et bienvenue sur la web radio du Chemin Rouge. On espère que vous allez bien en ce 1er mars. Nous en tout cas, on a la pêche, surtout quand on a la chance d'avoir une invitée spéciale. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Égalité Plurielle, pour préciser, le projet Égalité Plurielle, c'est un projet réalisé avec la ville de Fâche-Tuminil pour mettre en avant les femmes en lien avec la journée du 8 mars. Comme vous le savez, le 8 mars est la journée pour les droits des femmes, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion, notamment pour réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes, faire le point sur ce qui a été fait et qui reste à faire sur la question de la place et des femmes dans la société. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Pour vous accompagner aujourd'hui, nous sommes trois jeunes de Fâche-Tuminil et nous avons la chance d'avoir avec nous Alexandra Machado, créatrice de l'association Passerelle à Lille. Bonjour à vous.
Bonjour.
Eh bien, bonjour à tout le monde. Avant d'en savoir plus sur notre invité du jour, voici un petit point historique sur la journée des droits de la femme. Cette journée a été officialisée par les Nations Unies le 8 mars 1977, mais son origine remonte à plus loin durant le XXe siècle avec des manifestations de femmes, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs dans le monde. Par exemple, à partir de 1909, aux États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines et organisées, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes pour célébrer l'égalité des droits civiques. Cette journée du 8 mars est le symbole du combat de nombreuses femmes pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité mettre en avant une femme engagée sur notre territoire, qui est donc Alexandra Machado.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous vous présenter et nos auditeurs, auditrices ?
Je peux me présenter, oui, bien sûr. Merci de ne pas avoir écorché mon prénom, c'est tout à fait sympa. On est encore sur la journée des droits et des luttes entre la condition des femmes et leurs droits. Alors moi, je suis éducatrice sportive, donc je travaille dans tous les quartiers de la métropole et je suis membre fondateur d'une association qui compte aujourd'hui 240 adhérentes et qui est nomade et qui valorise beaucoup le lien social, le sport santé et la diversité inclusive.
Merci beaucoup. Depuis combien de temps êtes-vous en France ?
Alors, effectivement, je viens du Brésil et je suis arrivée ici en 1998, une date fatidique pour le Brésil et la France.
Merci beaucoup. Pourquoi vous avez choisi la France et pas notre pays ?
Alors, en fait, je suis ce qu'on appelle une migrante économique, je n'ai pas choisi. Je fuis la misère. Donc on ne choisit pas quand on fuit la misère.
Comment se passe-t-il votre intégration dans la société française ?
Alors, j'ai un petit peu du mal avec le mot intégration parce que je pense toujours à désintégrer. J'ai la tendance, quand j'apprends une langue, particulièrement le français, à avoir les opposés des termes. Donc pour moi, intégrer, c'est désintégrer. Et donc, je n'arrive pas trop à l'utiliser le mot pour ma part, parce que je ne peux pas désintégrer ce qui est mon essence. Je suis tout à fait attachée à ma musique, ma langue, ma culture, et donc je ne la désintègre pas pour m'intégrer, mais en tout cas, j'assimile et je le vis très bien, la langue française, la culture française, et je trouve qu'on est multiples au-delà d'être français.
Et ça a été compliqué d'apprendre le français ou pas ?
C'est une langue latine, donc elle est proche de l'italien, de l'espagnol et le portugais. Ce sont des langues que je parle, donc c'est plus facile que l'allemand ou le sanskrit, par exemple. Mais oui, ça a son cap de difficulté quand même. La syntaxe et les injonctions entre les mots sont toujours assez cherchées, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association La Passerelle ?
Oui, bien sûr. Alors, Passerelle, comme j'ai dit au début, elle se pose sur ses quatre piliers, le nomadisme, la diversité inclusive, le sport santé et le lien social. On existe depuis 2010, on est un peu partout, on travaille sur la notion de sport démocratisé, particulièrement sur un focus sur les femmes, parce qu'on considère que l'accessibilité à la pratique physique et au sport pour les femmes reste quand même assez freinée, puis on sait parce qu'il y a des chiffres qui le démontrent.
Pourquoi vous avez eu cette envie d'intégrer le sport dans la vie d'une femme?
Alors, c'est une chouette question et qu'elle a plein de différentes réponses. On a discuté tout à l'heure avant l'émission sur la notion de performance, de médiocrité, l'éloge de la médiocrité. Je pense à Guillaume Maurice qui a écrit un bouquin qui est très chouette sur la question. Et donc le sport a une notion très forte de performance, de premier, deuxième, troisième et puis le reste. Et nous, on s'est dit qu'on n'était pas dans cet objectif justement, on était plutôt dans la volonté d'ensemble prendre du plaisir, danser, transpirer. Et donc l'idée de sport compétition nous paraît pas suffisamment démocratique parce qu'elle ne rassemble pas suffisamment du monde sur une intention. Et de ce fait, on s'est focalisé sur les femmes, d'abord parce que ça parle beaucoup aux femmes de faire lien et de faire ensemble, tu vois. C'est quelque chose d'assez naturel de se retrouver entre potes, entre copines, pour faire des choses en commun. Il y a quelque chose lié à la fraternité féminine, qu'on peut appeler sororité. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce mot, parce qu'elle est galvaudée. Alors, je sais pas, je voulais chercher sororité.
Est-ce que vous avez rencontré des obstacles lors de la réalisation de l'association La Passerelle? Si oui, comment vous avez surmonté cette épreuve?
Alors, on n'en a que des obstacles. On a tout le temps des obstacles, parce que ça, c'est la vie de toute façon. Non, je ne connais pas une seule vie sans. Mais en tout cas, le fait de focaliser nos intentions sur la non-mixité choisie était un problème, parce qu'on a une complexité sur... ces choix qui peuvent être mal interprétés. Sauf qu'on a insisté auprès d'une grande diversité d'acteurs à l'intérieur du projet associatif. Donc on a vraiment un groupe de santé. Je peux vous envoyer après le bilan associatif, comme ça vous vous rendez compte de la diversité des gens. Et en fait, oui, on n'en rencontre que des difficultés. On n'a pas de salle, par exemple, octroyée par la mairie parce que la non-mixité choisie pose problème. On a des vrais freins sur le déploiement et le développement de l'action, c'est sûr. Sauf que justement, ces freins se transformaient en impulsions et en leviers. Vous savez, règle générale, les femmes, quand elles rencontrent des difficultés, elles trouvent toujours un moyen de trouver de la force dans les complexités et les difficultés qui les sont imposées.
Et est-ce que si une personne qui souhaite découvrir l'association La Passerelle, comment elle peut... comment elle peut s'y rendre, avec quel contact, avec quelle personne elle peut...
Alors, on est sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn et on a un site internet. On a un blog, une newsletter, donc on est hyper visible. Il suffit de taper Passerelle in Lille et on tombe dessus rapidement. Ensuite, les cours d'essai sont toujours gratuits. On est gratuit pour les réfugiés, les mineurs isolés, les demandeurs d'asile et pour les personnes en situation de précarité, on les accompagne pour trouver une solution sur leur licence essentiellement. On a une dynamique de coefficient familial, donc les tarifs sont adaptés au couet, un peu comme dans un centre social. Moi, je dirais qu'il faut qu'elles viennent dans les différents cours. On en a 21 cours par semaine. On a des cours en mixité et des cours en non-mixité. Donc, il faut venir participer. Puis là, les bénévoles seront ravis d'expliquer la démarche de notre projet associatif.
Et pour cette journée du 8 mars, quel message voulez-vous faire passer aux femmes?
Alors, je pense que je n'ai pas particulièrement un message à faire passer, mais je le fais de façon quotidienne. C'est faire, en fait. Nous faisons des choses de façon quotidienne. Et que le 8 mars, c'est une journée phare, effectivement, sur encore et encore une fois la question des luttes sur les droits des femmes. Mais si je peux dire quelque chose, ça serait sympa qu'on arrête de dire que c'est la journée de la femme, puisque c'est quand même une journée de lutte. Je vous remercie d'ailleurs de le rappeler sur cette interview. Vous avez bien rappelé que c'était une journée encore et encore des luttes. J'aimerais bien qu'elle disparaisse un jour et qu'on arrête de lutter et qu'on puisse être équitable sur le game.
Est-ce que ça a été compliqué pour vous de quitter votre famille pour venir ici?
Oui, parce que j'ai laissé mes enfants au Brésil. Donc j'avais une petite fille de... Alors Yantra, elle avait 3 ans. Ananda, elle avait 4 ans et Morgana, elle avait 5 ans. Donc, c'était très dur. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'était pas un choix. C'était vraiment une une échappée, quoi. Il fallait que je m'en sorte.
Et ils vous ont rejoint aujourd'hui, vos enfants? Enfin, ils sont...
Oui, elles sont là aujourd'hui. Morgana, elle est tatoueuse. Donc, elle a un salon de tatou. J'ai un petit-fils qui s'appelle Saphir, de ma fille moyenne. Et Yantra, elle bosse dans le commerce international. Donc, elles sont là, toutes les trois. Elles ont 30, 25, 27 ans. Et j'ai un fils de 19 ans qui fait de la cybersécurité à... enfin, loin d'ici, quoi. Et un petit-fils de 1 an et demi. Donc, ça fait du monde. J'ai repeuplé la France.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Comment votre vie, elle se passait au Brésil?
Alors, c'est difficile de vraiment... Je pense qu'il y a des choses qu'on vit en France qu'on ne peut même pas imaginer que c'est possible au Brésil. Je vais vous donner une anecdote, d'accord? Alors, je devais compter les centimes pour acheter le riz et les haricots, parce que nous, on a vécu pendant très longtemps l'inflation, mais forte, pas celle de 22%. Par exemple, on a acheté un paquet de riz de 100 grammes aujourd'hui à 3 euros, et à la fin du mois, elle était à 300, sauf que le salaire ne suivait pas. Donc, du coup, c'était très, très dur de la survie, quoi. Tu vois. Bon, on avait de la chance parce que c'était un pays quand même... riche de nature, donc on mangeait des fruits, des légumes, parce que la nature, elle était là et elle était généreuse, mais sinon, c'était assez misérable. Par exemple, je mettais des chaussures 34, alors que je faisais du 36. Du coup, je mettais des journaux à l'intérieur des chaussures pour que ça s'élargisse un peu. Quand il pleuvait, alors il y avait une autre année, aujourd'hui, je rigole beaucoup de tout ça. Et puis, finalement... Je vous dis ça en rigolant, et on rigolait parce que c'était tellement incroyable que la seule solution quand t'es dans une situation de manque, c'est vraiment de rire. Ma mère, elle disait ça, quand tu es dans la merde jusqu'au cou, il te reste qu'à rire ou à danser. Donc j'ai ri, j'ai dansé. Il y avait des inondations, l'eau elle t'arrivait juste là, et nous on avait, nous maisons, c'était vraiment tout pourri, on déménageait tout le temps et c'était tout pourri. Donc, je perdais toutes mes affaires, les affaires d'école et tout ça. Et ma mère, elle me donnait la main, elle me disait, allez, on va danser à la déesse de la pluie qui nous a nettoyé la maison. Et on dansait. Tu vois, il y a quand même quelque chose dans la difficulté, la survie qui te ramène à résilier, à dépasser les situations qui t'oppressent. Et surtout qu'on a une idée du Brésil un peu carnaval, samba et, tu vois, et football. Sauf qu'on a quand même des situations terribles, quoi. D'économie à deux vitesses, de pauvreté extrême. Surtout dans cette époque, tu vois, j'ai grandi dans la dictature. La dictature, c'est quelque chose de vraiment... on peut être pas d'accord avec la politique en France, mais on ne vit pas dans une dictature du tout. Hein. Ce qu'on vous dit n'est pas vrai, quoi. On n'est pas dans une dictature. C'est une dictature, c'est pas ça. Je défends pas En Marche pour autant, hein. C'est juste une info complémentaire, parce que je sais qu'on parle beaucoup de dictature en France, mais c'est pas ça une dictature.
Eh bien, c'est la fin de notre podcast. Un grand merci à Alessandra Machado pour votre participation. C'était un plaisir de vous accueillir. Auditeurs et auditrices, on vous dit à bientôt sur notre radio. Prenez soin de vous et à bientôt sur la web radio du Chemin Rouge.
Super, merci.
Merci à vous.